Nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
« 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique. »
Bonsoir à tous. Je vous invite au musée ce soir, au musée de la musique à Paris, qui rassemble l'une des plus grandes collections au monde d'instruments et d'œuvres d'art liées à la musique et dont la scénographie a été entièrement repensée. Nous en arpenterons les principales salles ensemble tout à l'heure. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. Donald Trump a été accueilli par des huées pour sa première venue au Kennedy Center de Washington depuis qu'il en a été nommé président. C'était mercredi soir pour une représentation de la comédie musicale Les Misérables. Une venue prévue de longue date, mais qui revêt pourtant une symbolique particulière en ce moment, quand on sait que la comédie musicale, inspirée du roman de Victor Hugo, évoque les barricades à Paris pendant l'insurrection de juin 1832, réprimée dans le sang par l'armée et la garde nationale, alors que justement Donald Trump a convoqué des milliers de soldats à Los Angeles, où se tiennent des manifestations contre sa politique migratoire. C'est à lire sur le site et sur l'application de Radio Classique, un article de Philippe Gault. Un nouveau mandat pour Stefano Pace, le directeur général et artistique de l'Opéra Royal de Wallonie. Arrivé à la tête de l'institution liégeoise il y a 4 ans, ce second mandat, d'une durée de 5 ans, étendra donc ses fonctions jusqu'en 2031. Stefano Pace a, nous dit le communiqué, conduit l'institution avec une vision artistique claire, une exigence constante et une volonté marquée d'ouverture vers de nouveaux publics. Si la saison des festivals a déjà bien commencé, les grandes institutions musicales n'ont pas pour autant encore fermé leurs portes. Vous pourrez ainsi encore profiter de délicieux moments de musique, sur les scènes parisiennes notamment. Et si vous avez envie de fantaisie, de bulles de champagne, de rire et de poésie, rendez-vous le 28 juin au Théâtre des Champs-Élysées avec Patricia Petitbon, Laurent Naouri, Rodolphe Briand, l'Orchestre National d'Île-de-France et Laurent Campellone, pour une soirée mêlant opérette et chansons, des airs d'Offenbach, de Poulenc, de Reynaldo Hahn ou encore d'Henri Christinet.
Ah, cher monsieur, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Je suis encore tout étourdi, tout ahuri, tout engourdi. Excusez un moment des mois, pardonnez à mon bavardage. Je suis encore tout étourdi, je suis encore tout engourdi. Excusez un moment des mois, pardonnez à mon bavardage. J'en suis à mon premier tirage. Je reviens de chez Madame de Thèbes. Dans ma vie, il y a un homme brun qui m'épousera, je serai célèbre, j'aurai mon nom dans le bottin. Une femme noire me cherchera des noises, mais il paraît que ça ne fait rien. C'est une femme mariée, une bourgeoise, mais tout ça finira très bien. Dans mon jeu, il y a des tas de piqueux, il paraît que c'est des tas d'argent. Je serai quelque chose de république. Qui sait ? La femme. La femme du président. N'est-ce pas que c'est à n'y pas croire ? N'est-ce pas que c'est beau ? N'est-ce pas que c'est fou ? Et pour m'apprendre toutes ces histoires, on ne m'a pris que 40 sous. Cher monsieur, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Je suis encore tout étourdi, tout ahuri, tout engourdi. mon bavardage. Je suis encore tête étendue, je suis encore toute engourdie. Ah, excusez un moment, dis-moi. Ah, ah, pardonnez-moi, mon bavardage. J'en suis à mon premier tirage.
Un air de l'opérette Fifi d'Henri Christinet, chanté par Patricia Petitbon, avec ici l'Orchestre National de Cannes et Benjamin Lévy. L'un de ces airs pétillants qui ponctueront donc ce concert de Patricia Petitbon avec Laurent Naouri le 28 juin au Théâtre des Champs-Élysées.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Un nouveau parcours, de nouveaux accrochages au Musée de la Musique à Paris, un nouveau récit donc qui favorise les croisements entre les cultures. Marie-Pauline Martin, la directrice du musée, nous éclaire justement ce soir sur la réflexion qui a conduit à ce réaménagement de la collection.
Notre collection a une très belle muséographie de la point de vue de l'architecture, mais elle avait un système de présentation qui devenait de plus en plus clivant, de plus en plus difficile à justifier. C'était la présentation suivante. Le trois quarts du parcours était centré sur l'Europe et le dernier quart réunissait les 4/5 de l'humanité, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et les Amériques. Et donc on passait de l'Europe au monde des autres, entre guillemets. Le fait de ne pas pouvoir réunir, même en termes de discours, patrimoine et ne pas évoquer les circulations qui ont fait naître les plus grandes révolutions instrumentales et les plus grandes pages de l'histoire de la musique, ça devenait très problématique, surtout à l'heure de la mondialisation, l'invention de l'histoire globale, de l'histoire mondiale. Et donc, il y a 4-5 ans, on a décidé voilà, comme prochaine étape avec Ligne de Mire 2025, la rénovation du parcours.
Ce qui veut dire créer des connexions entre les instruments européens et les instruments extra-européens en suivant la chronologie. Comment avez-vous pensé ces croisements ?
Oui, tout à fait. Alors, après, on reste un musée. Il fallait absolument qu'on maintienne une didactique très claire, hein, qui est très profitable aux scolaires et à tous les visiteurs. Donc, on a voulu, dans le parcours européen et chronologique, qui déroule une grande histoire de la musique à l'échelle européenne de la fin du XVIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Et dans ce parcours européen, si on n'a pas tout détruit, tout déconstruit et reconstruit, par contre, on a à point très régulier, par des vitrines carrefour, par des objets passerelles, en fait, on a reconnecté ponctuellement cette histoire européenne avec des grands moments importants dans la vie de la facture instrumentale ou la vie d'histoire de la musique. C'est jamais une idéologie de l'universalisme qui a guidé notre réflexion. C'est jamais le désir d'être exhaustif, mais c'est d'ouvrir des petites fenêtres historiques, témoignent des circulations, de l'enchevêtrement des imaginaires, voilà, de manière très ponctuelle.
En vous associant également à d'autres disciplines artistiques, notamment visuelles, avec des artistes contemporains ?
Oui. Alors, un des grands aspects du réaménagement, ça a été aussi de densifier ce qu'on appelait le dialogue entre les arts, le dialogue entre la musique et les arts visuels, pour des raisons déjà d'identité. Hein. Nous sommes un musée de la musique, nous sommes bien sûr à une dominante de conservation d'un patrimoine instrumental, mais nous ne sommes pas un musée instrumental, nous sommes un musée dédié au phénomène musical au sens large, c'est-à-dire dans ses connexions avec une histoire culturelle élargie qui englobe l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture, de la sculpture. Et moi, je pense que on ne peut jamais mieux expliquer l'histoire de la facture instrumentale qu'en l'intégrant dans cette histoire de l'art culturel élargie aux autres arts. Et pour cette raison, donc, on a beaucoup travaillé sous forme d'acquisition de demandes de prêts à la présentation dans le parcours permanent de peintures, de sculptures, d'objets d'art, de films artistiques. Et donc, au total, c'est presque une cinquantaine, une soixantaine d'œuvres supplémentaires qui dialoguent avec le patrimoine instrumental. Et je dirais aussi qui embellissent le musée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le musée est absolument magnifique et on crée des dialogues presque inattendus. Par exemple, le Louvre a accepté le dépôt d'un tableau de fleurs d'Abraham Mignon, qui est absolument un chef-d'œuvre, hein, de la peinture du XVIIe siècle, et qui est mise en regard d'un clavecin du XVIIe siècle, où l'on peut finalement percevoir que ce qui a constitué les motifs de base pour la peinture de fleurs au XVIIe siècle étaient les les mêmes motifs qui ont servi à la décoration des tables d'harmonie des clavecins. Et en fait, le plaisir n'est pas juste de constater la parenté, mais finalement de se rendre compte que les corporations de métiers chargées du décor des instruments étaient exactement ceux qui étaient chargés des peintures de chevalet ou des décorations des carrosses. Donc c'est réintégrer l'instrument dans une dynamique sociétale beaucoup plus large que celle de l'atelier de facture instrumentale. Et ça participe de cette histoire élargie qui pour moi est beaucoup plus appréhensible par un grand public.
Quelques notes de Louis Couperin, jouées par Christophe Rousset sur le clavecin couché, l'un des plus beaux instruments de la collection du Musée de la Musique à Paris. Le Musée de la Musique qui nous invite donc à porter un nouveau regard sur les instruments, sur leurs histoires, comme leur résonance avec l'histoire, à travers des récits, des croisements, des carrefours. Je vous propose de découvrir ce soir certains de ces carrefours en compagnie d'Alexandre Girard Muscagori, conservateur au Musée de la Musique.
Donc, tout au long de la visite, vous allez voir de nouvelles vitrines qui ont été modifiées. Vous allez voir aussi de nombreux nouveaux cartels, avec deux nouveaux parcours de cartels, l'un consacré à l'histoire de la collection, comment les instruments sont arrivés jusqu'à nous et sont entrés dans le patrimoine national, mais aussi un parcours qu'on a appelé Objet Monde et qui essaie de proposer des relectures d'instruments célèbres de la collection au prisme d'une histoire globale et connectée, d'une histoire des circulations entre différents mondes culturels et musicaux. Donc ici, un exemple, c'est un clavicorde qui est orné déjà sur la caisse d'un très beau décor de chinoiserie, comme vous le voyez, mais aussi sur le couvercle d'une scène peinte pouvant représenter la bataille de Lépante entre les troupes vénitiennes, l'armée vénitienne et l'armée ottomane. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que notre collection d'instruments permet aussi de penser des moments historiques importants, permet de nous parler d'autres choses aussi que de la musique, mais aussi de phénomènes historiques, sociaux, politiques plus vastes. Ah, ici, c'est un bon exemple des carrefours qu'on a essayé de créer tout au long du parcours de visite. Donc c'est une vitrine qu'on a dédiée aux musiques dans l'Inde du Nord au XVIIe et XVIIIe siècle, parce qu'on se trouve ici dans un espace du plateau qui est consacré à la musique de cour à Versailles au temps de Lully, et on trouvait intéressant d'ouvrir une fenêtre sur une autre forme de musique de cour qui se développe de façon contemporaine, sans évidemment expliquer qu'il y ait des liens entre Versailles et le Rajasthan, mais voilà, pour ouvrir une fenêtre sur une autre géographie, une autre forme de musique dédiée aussi au plaisir princier, à l'expression du pouvoir. Et dans la collection du Musée de la Musique, on trouve des instruments tout à fait remarquables, notamment cette sitar qui s'appelle une bine, et cet instrument qui était vraiment l'instrument roi des soirées poétiques et musicales dans l'Inde du Nord jusqu'au XIXe siècle, a aujourd'hui quasiment disparu. Et cet exemplaire est sans doute le plus ancien conservé dans le monde. Alors, ici c'est un peu le Saint-Dessin du musée, c'est la collection de Stradivarius donc du Musée de la Musique, les cinq Stradivarius de la collection nationale. On a d'autres objets, on a une guitare, une pochette, des moules de l'atelier également de Stradivari, donc c'est des pièces évidemment majeures et de la collection. Et en fait, en regard de cet ensemble de violons, on a souhaité ouvrir un discours un peu plus large sur l'histoire du violon comme l'objet transculturel par excellence. Donc avant, cette vitrine était consacrée à l'histoire du violon entre la France et l'Italie, entre le 17e et le 19e siècle. On a souhaité l'ouvrir plus largement au voyage du violon à travers les continents, la façon dont cet instrument s'est incorporé dans de nombreuses cultures en suivant les routes des marins, des colons, des missionnaires. Et on a réuni des violons qui viennent des quatre coins du monde, un violon mexicain, un bratch roumain, des violons de Madagascar ou du Pérou. L'idée étant de montrer comment on retrouve évidemment des éléments communs, les ouïes, les échancrures, la volute, mais on retrouve également des gestes de facture très différents, des matériaux propres à chaque contexte, et tout cela donnant lieu à des techniques de jeu du violon très variées, selon qu'on est, au Maroc, où le violon est joué comme le rebab, ou en Inde du Sud, où le violon est joué beaucoup plus penché. Et comme dans la plupart des vitrines, on a essayé de mettre en dialogue ces instruments avec des images. En l'occurrence, ici, vous avez une très belle photo de Sebastião Salgado, qui a rejoint la collection du musée il y a quelques mois, et qui présente un violoniste mexicain pris en photo dans les années 80. Ou ici, des photographies plutôt liées à la Grande Dépression américaine, montrant comment le violon a aussi intégré des contextes beaucoup plus populaires.
Théotime Langlois de Swart sur le Davidoff, l'un des violons d'Antonio Stradivari, du Musée de la Musique, avec Tanguy de Villancourt sur un piano Érard, dans une berceuse de Gabriel Fauré. Alors, un tout nouvel espace du Musée de la Musique à Paris met à l'honneur les circulations musicales à travers le temps, les géographies, les cultures, par le biais de différents récits et de nouveaux concepts même d'accrochage. On s'y arrête ce soir sur Radio Classique, toujours en compagnie d'Alexandre Girard Muscagori.
Cet espace qu'on a appelé « Des musiques et des mondes » était autrefois la zone consacrée aux collections extra-européennes du musée, qui avait le mérite de donner à voir notre fonds extra-européen, mais qui avait aussi tendance un peu à le figer et à le couper de l'histoire. Et donc on a repris une réflexion depuis 2020 sur ces espaces pour essayer d'avoir un discours qui mette ces objets dans l'histoire, ces collections dans l'histoire, mais qui aussi montre la vitalité contemporaine des musiques à travers le monde. Et cet espace, du coup, aujourd'hui, s'ouvre aux cinq continents, en incluant l'Europe, et essaie de mettre en dialogue l'instrument de musique, toujours avec de la musique, mais aussi avec des œuvres d'art. Et vous verrez plusieurs installations contemporaines dans cette galerie, notamment cette très belle œuvre de l'artiste Njam Adawi, qui est un artiste tunisien, qui aujourd'hui a plus de 80 ans, figure importante de l'art moderne en Tunisie, et qui transforme ici des tambours à deux membranes, des tambours typiques des musiques d'Afrique du Nord, en œuvre d'art totale, en faisant le support de peinture calligraphique, mais aussi en les déployant dans l'espace et en faisant vivre donc l'architecture de Port-en-Pas. qu'on a essayé de faire avec l'agence de Projectile, ça a été d'essayer de, à la fois d'avoir un espace qui soit, offre beaucoup plus de possibilités pour nous, qui nous permette de renouveler plus facilement les accrochages et les discours au fil du temps. Et l'idée a été pour nous d'essayer de ne plus avoir des grandes vitrines sur les musiques en Afrique du Nord, mais plutôt de redimensionner les récits, de ne pas parler de tout, d'avoir des récits qui sont uniquement, quasiment uniquement, des récits de connexion, mais aussi parfois de parler d'histoires plus complexes, plus lourdes. Donc on a l'histoire du banjo, qui est une histoire qu'on déplie pleinement ici, dans cette vitrine, grâce à la collection du musée, qui conserve une pièce historique majeure, donc ce banza. Celui-ci a été rapporté d'Haïti par Victor Schœlcher en 1841. Et lors de cette redécouverte en 2003, c'est devenu un peu une star pour les luthiers et les musiciens américains, parce que ce type de luth en calebasse sont extrêmement rares. Or, ces objets nous permettent de tracer l'histoire du banjo, qui va naître en fait l'usage, de l'appropriation de ces luttes d'esclaves par des musiciens dans le cadre des minstrel shows, donc ces spectacles qui vont connaître un grand succès au milieu du 19e siècle à travers les États-Unis, où des musiciens, ou des artistes blancs grimés en noir vont essayer de caricaturer la vie des esclaves, notamment en adoptant des éléments de leur musique et de leur instrumentarium. Voilà, donc c'est une histoire assez parfaite pour penser à la façon dont l'instrument de musique est un objet transculturel qui vient connecter différents espaces et qui est souvent pris également dans des histoires complexes, parfois violentes. Donc c'est une histoire qui nous tenait à cœur et qu'on voulait raconter depuis quelques années. On a aussi créé une nouvelle installation pour le gamelan. Le musée conserve un très très beau gamelan qui est arrivé en France en 1887 et qui a été présenté à l'exposition universelle de 1889, celle lors de laquelle Debussy entend le gamelan du village javanais et en sera profondément marqué. Ce gamelan, c'est une pièce très importante des collections, c'est un des plus anciens gamelans arrivés en Europe. On l'a rejoué avec l'ensemble Gentasari de Nanterre, qui est un ensemble de musique javanaise établi à l'université de Nanterre. Et on a réalisé un film de théâtre d'ombre. Et le musée conserve en effet des marionnettes qui comptent parmi également les plus anciennes conservées en France, qui sont arrivées à peu près au même moment que le gamelan, qui était déposé au musée du Quai Branly pendant de nombreuses années et qu'on est heureux de pouvoir présenter à nouveau ici au musée de la musique. Donc vous retrouvez des personnages importants des grandes épopées indiennes, le Mahabharata, le Ramayana, et ces marionnettes sont magnifiques, très finement travaillées. Et on vient de lancer un programme de recherche autour de des techniques de fabrication de ces marionnettes anciennes pour mieux comprendre les matériaux mis en œuvre et les techniques utilisées pour les confectionner.
Quelques notes du gamelan du Musée de la Musique à Paris, joué par l'ensemble Gentasari. Nous avons entendu également des tambourkas appartenant aussi à cette fascinante collection du Musée de la Musique, dont la présentation a donc été repensée et nous invite ainsi à une perception plus globale de l'histoire de la musique, et puis à prendre en compte les enjeux de la société d'aujourd'hui à travers une dimension éco-responsable dans ses accrochages, mais aussi une éthique, comme nous l'explique Marie-Pauline Martin, la directrice du musée.
De manière éthique, on a fait un gros travail sur la provenance des instruments qui composent une collection muséale et que ces instruments proviennent du milieu de l'Europe au XVIIe siècle, de la période de l'entre-deux-guerres entre 1933 et 1945 ou de périodes qui ont été marquées par l'histoire coloniale. Le premier geste à destination du public a été pas simplement dans un cartel noter le facteur, la date, les matériaux, mais c'est de noter toutes les informations, même laconiques, qu'on avait sur d'où vient cet instrument avant son entrée en collection. Il y a toujours une part d'inconnu, il y a des chaînes de traçabilité, des chaînes de provenance qu'on ne peut pas établir. Et en fait, on a fait le choix de noter, en tout cas, ces trous, comme autant aussi de manques à combler. Et voilà, ça c'est une première démarche, je dirais, éthique de ce musée, c'est de jouer... la partition hein, de ce questionnement, d'où, comment se sont constitués, qu'est-ce qu'un musée, qu'est-ce qu'un patrimoine national, d'où viennent les objets, et ce sont autant d'histoires communes hein, qu'il fallait raconter.
Et qu'en est-il de la relation avec les interprètes? Est-ce que des instruments parfois sortent des vitrines? Vous avez créé cette collection Stradivari qui permet à des musiciens de jouer sur des instruments de la collection du Musée de la Musique. C'est quelque chose que vous avez envie de développer?
Oui, ça on ne cesse de le dire hein, et de le vivre au musée, on conserve un patrimoine matériel des instruments qui sont des objets d'art qu'il faut préserver dans leur matérialité, mais on conserve aussi un patrimoine immatériel, c'est le son des instruments, et ça c'est fondamental. Donc, chaque année on définit un périmètre d'instruments qu'il faut ramener en état de jeu, on a aussi un parc instrumental qui est maintenu en état de jeu, c'est toute une communauté de restaurateurs, de chercheurs en physique, en acoustique, hein, qui travaillent au laboratoire ou avec les personnels scientifiques du laboratoire pour maintenir ce patrimoine immatériel et faire en sorte que le musée sonne. Donc c'est au préalable, on définit un corpus d'instruments et ensuite on multiplie vraiment les concerts, les enregistrements, les films d'instruments. Lorsqu'on acquiert aussi, on fait très attention aujourd'hui à la jouabilité, au potentiel sonore des instruments. D'une part pour rendre le musée sonore, vivant, mais c'est aussi la garantie des liens avec deux corporations fondamentales, ce sont les luthiers, les facteurs, les musiciens. Et si on veut garder ce lien, il faut toujours se poser la question du jeu, de retour à l'état de jeu, de la remise en état de jeu. Après, tous les instruments ne pourront pas être ramenés en état de jeu, mais s'engager avec eux dans une démarche où on sélectionne une démarche avisée, en tout cas, c'est une priorité pour le musée, oui.
Thank you.
Une toccata de Capsberger, jouée par Thibaut Roussel sur un archiluth vénitien appartenant au musée de la musique. Un extrait de ce merveilleux album The Last Rose, qui est sorti tout récemment et que l'on a eu l'occasion d'évoquer il y a quelques jours dans ce journal du classique. Voilà, le musée de la musique est donc à redécouvrir à travers de nouveaux récits et il reste en plus ouvert tout l'été. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Mathis Alexandre pour sa réalisation. Lundi, nous serons en compagnie de Joshua Weilerstein, le directeur musical de l'Orchestre National de Lille, qui nous présentera le spectacle qu'il dirigera en fin de saison à l'occasion des Nuits d'été de l'Orchestre National de Lille autour d'une œuvre de Kurt Weill. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge sur Radio Classique en musique avec Francis Drezel.
Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carsenti.
Nous parlons de deux philosophes aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé qu'Anna Arendt aurait tellement aimé cette appellation. Quand on l'a présentée ainsi dans un colloque notamment, elle précisait toujours qu'elle était politologue.
Grand leader, les leçons de l'histoire, un podcast à retrouver sur l'application Radio Classique et sur toutes vos plateformes de streaming habituelles. Avec Keep Me, gérez vos identités numériques, signez, prouvez, archivez en toute sécurité.
Vivez des concerts inédits avec des artistes en exclusivité au Musical du Luberon. En ouverture, Xavier Philippe avec les variations Goldberg en trio à cordes, Andrea Marcon et le Venice Baroque Orchestra exploreront la verve de Vivaldi. Jonathan Cohen et les voix de Soraya Maffi et Yestine Davis sublimeront Handel. Et en clôture, un duel pianistique entre André Manoukian et Jean-François Zigel. Parcourez la Provence avec les Musicales du Luberon du 11 au 29 juillet. Réservé sur musicalluberon.fr.
Les Arts Florissants et William Christie vous donnent rendez-vous sur grand écran. Redécouvrez l'opéra de Handel, Ariodante, comme vous ne l'avez jamais vu, au Grand Rex, le plus mythique des cinémas de Paris. Une projection exceptionnelle en partenariat avec la Philharmonie de Paris, en présence de William Christie et de l'équipe du film, le 30 juin à 19h30. Vivez une expérience unique et conviviale au plus près de la musique et de l'émotion. Réservez sur art-florissant.org.
Dans son nouveau hors-série, Le Parisien vous invite à remonter le temps jusqu'au Paris antique, Lutèce. Grâce à l'accès privilégié offert par le pôle archéologique de Paris, plongez dans l'histoire de la ville et découvrez le quotidien des habitants au 1er siècle de notre ère. Vivre à Paris au temps des Romains, un hors-série Le Parisien chez votre marchand de journaux.
Le Figaro hors-série romantique la légende des siècles. Elle a défié les empires, conquis la Méditerranée. Du Capitole au Colisée, des catacombes aux basiliques, Le Figaro hors-série célèbre la Rome antique en une promenade époustouflante à travers le temps. Le Figaro hors-série romantique la légende des siècles en vente chez votre marchand de journaux.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
h 30 23h, les variations de Francis Drezel.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ces variations sur Radio Classique. Merci à Laure Maison que vous retrouverez donc sans faux dimanche soir à 20h pour ce concert exceptionnel qui a été enregistré en la Fondation Louis Vuitton. C'était le 3 juin dernier et ce concert réunissait le pianiste Alexandre Kantorov, le violoniste Daniel Lozakovic et le violoncelliste Gauthier Capuçon autour de deux des plus beaux trios avec piano, le premier de Félix Mendelssohn et le premier trio avec piano de Johannes Brahms. Et puis quelle équipe donc évidemment pour interpréter ces deux trios. Et tout à l'heure, à 23h, je vous proposerai une personnalité musicale non moins exceptionnelle, puisqu'il s'agira de ce chef d'orchestre inclassable, en fait, qu'était Nikolaus Harmancourt, ce chef d'orchestre autrichien, mais né à Berlin en 1929, et qui nous a quittés le 5 mars 2016, à l'âge de 86 ans. Et vous savez que lorsque Nikolaus Harmancourt a commencé à s'imposer sur la scène internationale, il a d'abord été considéré comme le pape des baroqueux. C'était en quelque sorte son surnom, aux côtés de ses amis Gustav Leonhardt, Franz Bruggen ou les frères Koeken. Nicolas Arnoncourt a été l'un des principaux artisans du renouveau de l'interprétation de la musique baroque, tant d'ailleurs par la redécouverte de répertoires entiers que par une façon de l'aborder radicalement rénovée avec des instruments d'époque et un souci d'exactitude historique concernant les effectifs mais aussi les techniques de jeu relatives au vibrato, au diapason et bien d'autres éléments. Après avoir dirigé pendant des décennies son Concertus Musicus de Vienne, Nicolas Arnoncourt, à partir des années 80, a considérablement ouvert son répertoire de chef, dirigeant aussi les plus grands orchestres symphoniques européens dans la musique romantique ou même post-romantique jusqu'au XXe siècle. Parmi ces orchestres qu'il a le plus souvent dirigés figure l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam que Nicolas Arnoncourt a dirigé pour 276 concerts, mais aussi l'Orchestre de Chambre d'Europe, nous en verrons quelques exemples tout à l'heure pour ses interprétations d'œuvres de Beethoven, le Philharmonique de Vienne ou bien encore le Philharmonique de Berlin. Alors tout de suite, un document, c'est la relecture par Nicolas Arnoncourt de la suite pour orchestre numéro 3 de Jean-Sébastien Bach, mais avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'était un concert qui a été donné à la Philharmonie de Berlin le 5 octobre 2002.
Thank you. Thank you.